تهديه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لنج أجي سنير كرياتور دشي إدلاتور سام موديل في إيطالي. Le miséricordieux est plein de grâce et compassion pour ses serviteurs soumis, le témoin intègre et le surveillant vigilant de toutes les actions de ses créatures. Je lui suis reconnaissant de tous ses bienfaits spirituels et matériels, et je vous devant lui en toute sincérité mon incapacité d'être juste et droit sans son aide. Dans lui, dans ce, je me réfugie contre la méchanceté de mon âme charnelle, la dureté de mon cœur, l'ignorance de sa religion et contre la médiocrité de mes œuvres. Je témoigne, et Dieu suffit pour témoin, qu'il est et demeure la seule divinité digne d'adoration partout et toujours étant l'unique inventeur des cieux et de la terre de ceux qui le peuplent. Certes, il n'y a point d'égareur pour celui que Dieu a guidé, et il n'y a point de guide pour celui que Dieu a égaré. La soumission des soumis ne lui profite point, ni n'augmente en rien dans son pouvoir ou dans son royaume. De même, l'infidélité des infidèles ou la mécréance des mécréants ne lui nuit point ni ne diminue en rien dans son pouvoir ou dans son royaume. Quiconque obéit à Dieu et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le fait pour son propre profit, et quiconque leur désobéit ne l'aide en vérité que sa propre personne. Dieu se passe de tout. Il est Dieu avant comme après la création de l'univers, étant le premier, le dernier et l'unique pouvoir de toutes les créatures, et à lui tout fera retour. Et je témoigne par la suite que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur et son dernier envoyé. Il l'a envoyé avec la voix droite pour prêcher la vraie religion, qu'il fera prévaloir sur toute autre religion ou de toute idéologie, n'en plaise aux mécréants et aux négateurs. Il l'a envoyé en tant qu'une miséricorde pour l'humanité tout entière, et en tant que lumière éblouissante face aux ténèbres de la barbarie et de l'égarement. Il l'a envoyé en tant qu'annonciateur de bonnes fins pour les croyants dans des jardins de délices, et en tant qu'avertisseur de tourments éternels aux mécréants. Qu'Allah prie sur lui, sur sa sainte famille et sur ses fidèles compagnons. Amis. Ceci dit, sache, ma chère sœur en Dieu, que le meilleur des livres est le livre de Dieu, c'est-à-dire le Coran, et la meilleure des voies est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les pires des choses sont les innovations religieuses, et toute innovation religieuse est égarement, et tout égarement est dans le feu. Je voudrais t'inviter, Inch'Allah, ici, à t'attacher fermement et davantage à l'islam, comme Dieu l'a prescrit par la voix de son dernier envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car là réside la miséricorde de Dieu, son agrément, la sécurité morale, l'apaisement du cœur, la conviction inébranlable, le bonheur, la vraie direction et les succès ici-bas et dans l'au-delà. tout comme pratiquer l'islam contrairement au modèle du prophète, prière et salut de Dieu sur lui est source d'abandon et du courroux divin, d'insécurité morale, de troubles et de doutes dans le cœur, de malheur, d'égarement et d'échec éternel. En effet, la religion est ordre de Dieu. La religion est ordre de Dieu et de son dernier prophète, dont il a rigoureusement recommandé de suivre le pas et de s'éloigner de tout ce qui peut égarer de la bonne voie. En disant, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il demeure très certainement dans les messagers de Dieu un bon modèle pour vous, pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier, et qui se rappelle Dieu beaucoup. Et il dit encore, et voilà en toute droiture mon chemin, suivez-les donc, et ne suivez pas les sentiers, il vous détacherait de son sentier. Et le prophète, prière et salut de Dieu sur lui, a dit, nul d'entre vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il m'aura aimé plus que son fils, son père et tous les gens. Ainsi, le musulman est tenu d'aimer le prophète, prière et salut de Dieu sur lui, d'aimer ses paroles, ses ordres et interdictions, toutes ses pratiques par rapport à ceux de toute autre créature. Il n'accepte rien de quiconque qui ne soit confirmé par Dieu ou par son prophète ou par l'ensemble des savants musulmans, car ceux-ci ne s'accordent jamais sur un point d'égarement, puisqu'ils remettent toujours leur différend à Dieu et à la Sunna. Ils obéissent ainsi à l'ordre de Dieu suivant. Ô le croyant, obéissez à Dieu et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir. Puis, si vous vous disputiez en quoi que ce soit, renvoyez-les devant Dieu et les messagers. Si vous croyez en Dieu et au jour dernier, c'est la meilleure chose et le plus beau refuge. Obéir à Dieu, obéir du moins au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le suivre est une obligation pour tout musulman. Car quiconque obéit au messager obéit alors certainement à Dieu. Le Seigneur Très-Haut a dit, si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Il dit encore, ce que les messagers vous apportent, prenez-le, ce dont ils vous empêchent, abstenez-vous. Oui, Dieu est dur de poursuite. Et le prophète lui-même a dit, quiconque m'obéit, obéit alors certainement à Dieu. Et quiconque me désobéit, désobéit alors certainement à Dieu. Ce que je vous ai défendu de faire, dit-il, abstenez-vous-en, et ce que je vous ai ordonné de faire, accomplissez-le autant que vous le pouvez. Ceux qui vous ont précédé ont péri uniquement par l'abondance de leurs questions à leurs prophètes et leur divergence d'opinion à l'égard de leurs prophètes. Ainsi, dit-il, nul d'entre vous ne sera croyant jusqu'à ce que sa passion soit conforme à ce que j'ai apporté. Sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais parler ici de ton rôle en tant que musulmane et en tant que femme. En tant que combattante de la voie de Dieu, ne parler du rôle de la femme dans l'éducation ou dans tout autre domaine revient en fait à évoquer sa place au sein de la société en tant que poumon de la famille. C'est-à-dire première unité cellulaire de la société. En tant que pivot central de tous les processus adultes, les membres intégrants et indissolubles de la communauté. L'avenir de tout pays et de toute doctrine repose sur celui de l'enfant, lequel dépend étroitement de l'éducation reçue. de cette dernière en effet qui caractérise tout enfant, tout jeune et tout individu et par conséquent toute société. Celle que nous vivons aujourd'hui dans sa totalité mutante est confrontée aux divers idéaux humains et combien divergents, entraînant du coup la flagellation de la jeunesse, sa perte d'identité, sa corruption morale et culturelle et sa perplexité à se frayer une voie de conduite capable de la libérer de son engouement pour les doctrines matérialistes. Celle-ci, par les biais des médias ennemis de l'islam, relayés dans les pays musulmans parmi certaines presses néocoloniales, ont plus que jamais intoxiqué les consciences et aveuglé les vues, si bien qu'après fin de siècle d'ankylose fataliste, de vitalité assoupie et de déviation matérialiste, les musulmans sont aujourd'hui humiliés et complexés dans leur foi et vivent une ère où ils ont honte de proclamer leur islamité devant les sophismes déchéants de la guérilla occidentale. Aussi faut-il urgemment mettre le premier ayant devoir de cette éducation, la femme, devant ses responsabilités. En effet, la femme représente légitimement la société puisque d'elle dépend l'avenir de l'enfant, le véritable gage sur lequel repose l'espoir de tout pays. C'est elle qui parle à travers les hommes, car chacun d'eux est plus ou moins le porte-maître de sa femme. Donc, de son bon comportement, de sa préservation à l'abri de toute corruption, de son attachement aux valeurs éducatives positives, de son dévouement et de sa prise en considération de ses responsabilités, dépend le sort de la communauté. Mon appel s'adresse à toutes les femmes sans distinction, aucune et en particulier aux musulmanes, qui sont à l'heure actuelle non seulement responsables de la rareté, sinon de la disparition de l'éducation islamique, mais surtout sont victimes des pressions des ennemis de l'islam. Les femmes ont en effet, à cause de leur caractère trop sensible au changement, pour la plupart renoncé à tout comportement digne de musulmans par volonté d'imitation de la femme occidentale, par ignorance de leur religion, par manque d'éducation et d'encadrement religieux et par faiblesse de leur foi. Celles qui essaient de se conformer aux prescriptions islamiques subissent aujourd'hui mille et une pressions allant de la perte de toute considération à l'oppression morale en passant par la moquerie, la haine, l'avilissement, etc. Faut-il alors contenter la société et sa propre âme en désobéissant au Créateur ou obéir à Dieu en mécontentant la société? L'ordre de Dieu, exalté, lui soit-il, en cela est clair et net. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. C'est Dieu et le prophète seul qui mérite d'être satisfait si vous êtes réellement croyant. Car il dit encore: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il n'appartient nullement à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix de leur façon d'agir. Celui qui désobéit à Dieu et à son messager s'égare de toute évidence. Et le prophète, prieur et salut de Dieu, sur lui a dit qu'il n'y a pas à obéir à une créature alors que l'on enfreint les prescriptions du Créateur. Nous laissons la porte ouverte à quiconque voudrait apporter sa contribution pour la restauration des valeurs morales et culturelle de l'éducation islamique, l'encouragement de nos mères et sœurs religieuses qui s'y conforment déjà et pour l'appel de tous les musulmans du monde entier à la conformité avec le Coran et la Sunna dans leur vie quotidienne et dans leur comportement social, à l'instar de leurs sœurs de la première vague des musulmans qui ont su avec dévouement, abnégation, courage et bravoure apporter leur soutien inconditionnel à l'islam en les défendant dans son moment le plus décisif. La responsabilité des hommes n'est pas non plus exclue. Toute désobéissance aux ordres de Dieu et à ceux de son dernier messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, conduit à la perdition et tout changement de comportement de la part de l'être humain entraîne un changement de son sort. C'est ainsi que Dieu exalté et lui soit-il l'explique: Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Dieu ne change pas le sort d'un peuple tant que celui-ci n'a pas changé son propre sort. Le changement du sort de l'homme par Dieu sera positif ou négatif selon l'orientation vers le bien ou vers le mal que l'homme se serait choisi. En effet, Dieu purité à lui dit à propos de l'homme, وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, c'est-à-dire, ne lui avons-nous pas indiqué les deux voies, celle du bien et celle du mal? Il dit encore, et qu'en vérité, l'homme n'a rien de ce à quoi il s'efforce. Bien qu'en islam, il n'y ait pas cette vision chrétienne des péchés originels dus à Ève, il convient de savoir que ce fut par le biais de que le tentateur induisit le couple au péché. C'est pourquoi le prophète, prière et salut de Dieu, celui a dit, l'été Ève, aucune femme n'aurait trompé son mari. Le prophète, salut et bénédiction, celui a encore dit, je l'emporte sur Adam par deux qualités. Sa femme a été son auxiliaire dans sa révolte contre Dieu, tandis que le mien m'aide à lui obéir. Puis son démon familier était infidèle, tandis que le mien est musulman et ne donne que le bien. Il comptait donc l'aide de la femme en vue du bien commun, en vue du bien comme une qualité éminente. L'homme, dès sa création, fut soumis à une loi de son Seigneur, comprenant des interdictions et des permissions, que la femme, en tant que compagne éternelle de l'homme, joue un rôle important dans la vie de celui-ci. De sa conduite dépend la promotion ou la déchéance de l'homme. C'est aussi une nécessité première, de premier plan, pour l'homme et la femme de vivre à deux au sein d'un foyer conjugal qui donnerait naissance à une famille. Voilà le fondement de la famille. Parvenus à l'âge adulte, les jeunes musulmans et la jeune musulmane ont le droit de fonder un foyer et de collaborer pour apporter leur contribution au service de l'islam et de la Ummah islamique à partir d'une maison où règne la paix, le bonheur, la stabilité en dehors de toute difficulté matérielle et de tout obstacle social, économique ou religieux. Le mariage est le fondement de la famille, laquelle constitue à son tour le fondement de la société. La force, le succès et la pérennité de la famille résident dans son établissement sur des bases solides où s'épousent le matériel et le spirituel, à savoir l'amour de Dieu, la fraternité religieuse, l'amitié, l'affection réciproque, l'égalité, l'harmonie et la bonté. C'est ainsi que Dieu le Très-Haut l'expose, et c'est un signe de lui que d'avoir créé pour vous, ici de vous-même, les épouses auprès desquelles vous vous délassez. Et il suscite entre vous et elles affection et bonté, il y a là des indices certains pour qui sait y réfléchir. Surat 30, verset 21. L'islam établit donc des critères très fermes dans le choix des conjoints pour éviter toute erreur susceptible de bouleverser les assises du foyer. C'est pourquoi le foyer ne doit pas se fonder sur des raisons éphémères comme la profession, la fortune, la beauté, les rangs sociaux, etc. Au contraire, le mariage doit viser des buts plus nobles que la simple jouissance charnelle, entre autres l'amour en Dieu, la richesse de l'au-delà, la sauvegarde contre les tentations sataniques, l'éloignement des péchés, la purification de l'espèce humaine. Ceci permettra au couple de vivre plus à l'aise, car chacun des conjoints agira en cherchant la satisfaction de Dieu à travers le contentement de son partenaire. Force est de faire cependant ce constat en heure. Se marier, jadis, était d'un mérite plus méritant, plus préférable qu'aujourd'hui. Car le moyen de réaliser des profits n'était pas illicite et le mérite des femmes n'était pas répréhensible, ce qui permettait aux couples de baser leurs objectifs sur la continuation de l'espèce humaine par l'appropriation qui résulte du mariage, la satisfaction du désir sensuel que prouve chacun des deux conjoints afin de se préserver de l'adultère, la nuisance de relations de bonne entente entre d'une part les deux composants du couple et d'autre part entre leurs deux familles dans le cadre de l'amour et de la conciliation et enfin de l'entraide de deux époux à élever les enfants et à assurer leur vie. Bien qu'aucun propos déconseillant de façon absolue les mariages ne fût évoqué dans les saints Corans, ni rapporté dans la Sunna ou dans les patrimoines des compagnons et des suivants, il demeure quand même une réalité évidente qu'à l'époque actuelle, le mariage pour un musulman, et plus précisément les musulmans de notre société, est plus une source de perdition que de guider à cause notamment de la corruption des femmes, de leur perte de toute vertu, de la dégradation des mœurs et des valeurs morales et de l'abandon à soi des enfants, ne recevant plus alors une éducation capable de les sauver des calamités de la passion, entre autres l'alcoolisme, l'adolescence juvénile, la prostitution, la drogue, les maladies vénérables, les sida, etc. Une telle éducation prend sa source dans une union légitime bien fondée où l'homme se repose tranquillement dans l'amour, l'affection et la compréhension mutuelle à côté de sa compagne. Cette réalité palpante, en dépit des injonctions coraniques incitant au mariage et des recommandations aux saints prophètes combien fermes pour les mariages, est exprimée dans les deux visions prophétiques suivantes. L'honneur des hommes, c'est-à-dire le plus pieux après l'an 200, en 780, est celui dont la charge est légère, qui n'a pas de famille ni d'enfant. Qui n'a pas de famille, c'est-à-dire qui n'a pas de femme ni d'enfant. Un autre avis dit, les gens auront à endurer une époque où la perdition de l'homme sera due à sa femme, ses pères et mères, ses enfants. Ils lui feront honte de sa pauvreté et ils exigeront de lui ce qu'il n'est pas capable de leur donner. Il se laissera acculer à des situations scabreuses où sa foi l'abandonnera et ce sera sa perdition. Cette même réalité a été vue par l'écrivain et homme politique français André Malraux lorsqu'il dit « Lorsque le système des valeurs s'écroule, l'homme ne retrouve qu'une chose, son corps, c'est-à-dire le domaine de ce qui est physique, donc la drogue, le sexe et la violence, qui deviennent alors le système naturel à la disparition de Dieu. » L'islam, venant apporter à l'humanité l'ultime et parfait code de la vie, a conféré à la femme une place prépondérante de la vie de l'homme, lui a donné son vrai et complet statut sur tous les plans. Il l'a sans doute libéré des préjugés sociaux qui l'avaient laissé et l'acculé depuis longtemps derrière les barreaux de l'injustice. Dès ses débuts, en effet, l'islam, dans sa dernière humiliable forme, et contrairement à toutes les confessions religieuses et conventions humaines, a précisé les droits et devoirs bien compris de la femme en imposant aux hommes sa réelle promotion juridique et sociale. En l'émancipant, il a sanctifié sa vocation familiale et a assuré à sa nature et à son rôle leur plein épanouissement. Il a équitablement réparti les tâches familiales entre l'homme et la femme en confiant les extérieurs au premier et les intérieurs à la seconde. C'est dans ce cadre que se révèle le véritable rôle de la femme, en particulier dans le domaine de l'éducation. Prise de conscience et de responsabilité. Pourquoi beaucoup de femmes musulmanes sont préoccupées aujourd'hui, à l'instar des femmes occidentales, de ce monde, à ce stade crucial de la dégradation des vertus et des valeurs morales? Elles doivent se réveiller pour la reconstruction de leur vraie image pour faire approuver leur vrai statut dans la société, sinon les opportunistes et les oppresseurs se saisiront de tous leurs droits et feront d'elles de simples instruments de plaisir et de publicité. Nul n'ignore que la culture matérialiste a tellement ravalé la femme, l'ayant placée sur la pente abrupte du bourbier suffocant des instincts libidineux, politiques et matériels, et la intensément bouleverser le tableau des valeurs, des mérites et des capacités supérieures humaines et morales de l'homme, de la femme, la transformant en une marionnette d'une idée de sens et nulle que quiconque la voit semer et s'étonne. Le plus navrant est que ce grand crime stupéfiant a été perpétré au nom du progrès et de la civilisation, d'accès aux droits et à la liberté, a été imposé aux hommes sans défense. Tout le monde sait aujourd'hui que dans tout l'Occident, la beauté de la femme, ses attraits physiques, son charme, son art, son initiative, son âme, son corps et enfin sa personnalité sont devenus des instruments dérisoires au service des activités commerciales et des poupées de publicité pour les produits industriels et les marchandises de toutes sortes. Le corps de la femme est livré au pouvoir des différentes compagnies pour que celles-ci en tirent des profits barbares. Il n'a pas entendu la voix excitante et senti l'émotion mensongère inspirée par la femme devant les tables de débauche. couverte de boissons alcoolisées et de drogues, qui n'a pas profité des fils qui nuit dans un local de corruption de son corps et flétrit de la sorte son prestige et son honneur si haut placé. Sur ces entrefaites, ce sont la spiritualité et l'âme de la femme qui sont immolées dans les tranchées impitoyables de la liberté hypocrite. Mais le rôle de la femme, ici-bas, est nanti des particularités propres. La vertu ou la corruption d'une société, d'une communauté, provient de celle de la femme. La femme est le seul être humain qui peut offrir, tirer de son sein des individus à la société. L'islam a concédé à la femme dans la société des valeurs d'utilité spirituelle, valeurs que nulle autre société n'a prévues à la femme, en tant que compagne de l'homme de la vie. Ne disons pas que la femme est à l'image du sol à ensemencer, quelle que soit la qualité de la graine, elle ne germera que si le sol est bon. Ainsi, la santé morale d'un peuple dépend de celle de ses femmes. Certaines sociétés européennes s'imaginent que les droits de la femme résident dans le débrouillardage et dans le fait de mener une vie semblable à celle des êtres sans engagement. Mais l'islam a octroyé à la femme une personnalité, car cette religion considère cet être comme un des piliers importants de la communauté et comme un organe essentiel de la famille. Il faut savoir, ma chère sœur en Dieu, contrairement à toutes les rumeurs et bruits qui courent sur le sol marieux de la femme musulmane, comme l'islam, la femme n'est jamais abandonnée à elle-même. Elle est prise en charge durant toutes les étapes de sa vie avec un statut social bien déterminé. Ainsi, dès l'état fœtal et embryonnaire, comme tout être humain, Dieu lui a garanti le droit à la vie en interdisant l'avortement sous toutes ses formes, à commencer par la contraception sans motif juridiquement valable, jusqu'à la provocation d'accouchement avant terme. Étant bébé, Dieu lui a encore garanti cette liberté de la vie et le droit à l'entretien de la part du père en empêchant les parents de tuer leurs filles par crainte de misère ou à les enterrant vivantes par crainte de déshonneur et de tâches sociales, comme cela s'est passé chez les Arabes devant l'islam. Pour mieux garantir le respect de cette liberté de la femme et de son droit à la vie, Dieu a menacé, et sa menace est vérité, de tourment éternel à quiconque se voue à un tel acte. Dieu, qu'il soit exalté, lui a dit dans le Saint-Coran au chapitre 81, versets 8 et 9, « Et lorsque pour la fille enterrée vivante, il sera demandé à celui qui l'a enterrée pour quel forfait a-t-elle été tuée. » Devenue jeune fille, Dieu a encore conféré à la femme le droit à l'éducation et à l'enseignement, en chargeant le père de frais de cette instruction et la mère de l'éducation qui est le complémentaire de l'enseignement reçu en dehors de la maison. Puis, Dieu lui a garanti les droits au mariage en imposant de nombreux droits, de nombreux devoirs du moins au mari qui sont pour la femme des droits inviolables et immuables, entre autres les droits au choix d'un mari vertueux capable de lui assurer la garantie de la vie et la protection sociale et religieuse, de la protection sociale, religieuse et morale, le droit à la dot qui est propriété exclusive de la femme et non des parents, de quelques degrés qu'ils soient. Ainsi, par miséricorde de Dieu, la femme n'est ni contrainte de prendre un mari qu'elle n'aime pas, ni obligée de partager ou de donner sa dot aux parents. Elle joue également du droit à la nourriture, du droit à l'habillement, du droit au logement, du droit à l'enseignement, des préceptes religieux lui permettant la pleine pratique de sa religion. Elle joue encore du droit à une pension pour l'allaitement de son propre bébé, pension qui sera payée par les pères si elle l'exige. Elle joue aussi du droit au domestique pour l'aider dans ses tâches en cas de grossesse, de maladie, de vieillesse, ou tout simplement par amour de conserver sa beauté corporelle pour gagner la satisfaction pleine et entière de son mari. Car parmi les qualités de la meilleure femme, il y a le fait que quand son mari la regarde, il doit être pris d'envie pour elle. Et cela ne peut être obtenu qu'en protégeant le corps de ses tâches, pouvant la fatiguer, de le travail accablant, qu'il soit physique ou moral, car une personne fatiguée physiquement ou moralement est toujours nerveuse. La recherche de l'esthétique, la conservation de la beauté, l'entretien d'un bon naturel, d'une ambiance calme et sereine, mais...
La recherche de l'esthétique, et la conservation de la beauté, l'entretien d'un bon naturel, d'une ambiance calme et sereine, mêlée à la douceur des paroles et des manières, et à l'excellence des vertus du sentiment humain, compte parmi les premières préoccupations de la femme mariée, car ceci compte pour elle, après le contentement de Dieu et du prophète, c'est l'agrément de son mari. Car celui-ci représente ou son paradis, si le sacerdoce ou son enfer dans le cas contraire. Signalons que le droit de la femme au domestique est conditionné par la capacité ou les moyens de son mari, car Dieu n'impose à aucune âme ce qui est au-dessus de son corps. Là, il faut dire que Allah connaît là aussi. Signalons également que la femme juge du droit au logement et à l'entretien complet, même après résiliation, si toute sa sortie est révocable et si elle n'est pas sortie de la période de judici. La femme a encore le droit à l'allaitement et à la garde des enfants, même après le divorce, si toutefois elle n'est pas remariée à un autre homme. La femme a le droit au divorce moyennant quelque chose, c'est-à-dire qu'elle peut racheter sa liberté auprès de son mari quand elle le juge inconvenable pour elle pour des raisons religieuses. La femme musulmane a encore le droit à la possession des biens et à leur gestion, selon le voie qui lui plaise, sous réserve qu'elle soit licite et conforme aux prescriptions de l'islam. La femme musulmane a droit également à l'héritage dans lequel, selon le cas, elle peut prendre une part plus importante que celle réservée à l'homme. Le sujet des partages successoraux a suscité beaucoup de controverses, voire de doutes et de répugnances dans les esprits faibles, et cela à cause de l'attaque des ennemis de l'islam qui considèrent que la femme est aliénée par le fait qu'elle reçoit la moitié de la part de l'homme. Or, ne se sont jamais arrêtés ces ennemis de l'islam un seul instant pour réfléchir sur la raison de ce partage qui ne peut être qu'équitable et juste. Car il a été fait par le créateur de l'humanité au-dessus de cette chose. Ce n'est pas une invention ou conversion de terrain musulman, mais une prescription divine irrévocable et ignorée. Les ennemis de l'islam n'ont pas pu voir tous les droits qui sont réservés à la femme musulmane selon le code islamique, droits qui font que la femme n'a jamais été laissée aux bancs des affilés. Nous venons en effet de le voir depuis sa naissance jusqu'au son mariage, combien de droits Dieu a conféré à la femme. Il faut savoir aussi que la revendication de ce droit par les femmes musulmanes est un devoir pour elles, sinon elles ne peuvent que se considérer comme les propres usurpatrices de leurs droits, parce qu'elles ne les ont pas connus ni exigés, parce qu'elles ont préféré la loi des hommes à celle de Dieu, cette loi des hommes qui fait d'elles du moins les esclaves des hommes partout et sous toutes les formes de l'esclavage et de l'exploitation. Alors que la loi de Dieu a fait d'elle le règne des hommes au fin fond de leur demeure, ne connaissant ni fatigue, ni peine, ni insulte, ni frustration, ni sueur due à la recherche de la distance ou du renom. A bon entendeur, salut. Revenons à notre sujet pour dire que la femme, lorsque parvient à la vieillesse, elle est là aussi prise en charge soit par ses enfants, soit par son mari, soit par le trésor public islamique qui prend les veuves et orphelins en charge. Signalons dans le cas de l'exemple des droits de la femme, le droit à la liberté d'expression, ce qui concerne les affaires de sa société, les femmes peuvent faire des propositions au gouvernement pour le bien-être de la société, comme elles peuvent revendiquer l'instauration de la justice islamique pour jouir de tous leurs droits. Cher sœur en Dieu, si tu connais tant soit peu ta valeur auprès de Dieu, auprès du prophète, auprès des musulmans, si tu connais tant soit peu tes droits en islam, tu ne courras jamais derrière des vains mots qui ne sont en réalité que des tendances fallacieuses et trompeuses, des appâts pour ton asservissement, tels des mots comme émancipation de la femme, égalité de l'homme et de la femme. Depuis quand as-tu été abandonné pour que tu cries au secours? Depuis quand as-tu été traité injustement pour que tu cries à la justice? Depuis quand a-t-on usurpé
illégalement tes droits pour que tu crées à l'égalité des droits? Depuis quand as-tu été écarté de la scène sociale pour que tu crées à l'intégration de la femme au sein du processus de développement? Depuis quand as-tu été oppressé pour que tu cries à l'émancipation de l'enfant? Tous ces cris, ma chère soeur en Dieu, tu les as poussés quand tu as abandonné ton Créateur et tu t'es éloigné de ta religion. N'accuse personne, tu es ton propre tyran. Sache que par ces cris, tu te redresses comme adversaire de l'homme et non comme son partenaire. Et tu connais les conséquences fâcheuses de l'adversité avec l'homme. Car jamais tu ne l'atteindras ni ne le dominera. Il emploiera toutes les ruses, tous les stratagèmes pour asseoir son hégémonie sur toi, pour t'asservir, pour t'acculer de lui, pour t'exploiter, tout en te berçant de vaines promesses et des espoirs jamais accessibles. Jusqu'à quand comprendras-tu que ton bonheur réside dans ta foi en Dieu et dans ton attachement aux valeurs islamiques qui ne sont pas produits de l'intelligence et de la ruse humaine, mais des vérités proposées par le Seigneur des mondes, des deux mondes, pour que tu puisses réaliser ton plein épanouissement ici-bas et œuvrer pour ta sauvegarde de demain. Sache désormais, ma chère sœur en Dieu, que tu n'es pas comme toutes les femmes. Tu es la femme à qui Dieu s'est adressé à travers sa sainte et éternelle parole dans laquelle il t'a conféré des droits et des voies propres à toi, un code de vie propre à toi, une personnalité propre à toi, une voix propre à toi, des vertus et qualités propres à toi, un combat et des armes propres à toi, des préoccupations et un habillement propre à toi, et enfin des récompenses propres à toi. Sache que Dieu a fait de toi la source de l'humanité, une source de consolation et d'apaisement pour l'homme. Il a fait de toi un critère de distinction entre les hommes selon leur comportement à ton égard. Il a fait de toi la meilleure part du bas monde pour un homme. Il prête une attention particulière à ton sort au point qu'il t'a consacré un chapitre dans son Saint-Coran, de 116 versets, parlant de tout ce qui te concerne, au point qu'il a rapporté dans son livre éternel la discussion d'une femme avec le prophète au sujet de son mari, et la réponse qu'il a donnée à ses litiges, qui reste pour nous un enseignement juste et une loi jusqu'à la fin des temps. Cher sœur en Dieu, réjouis-toi de ce que notre guide et bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons. Derrière vous, dit-il, c'est-à-dire après vous viendront des temps durs pour les musulmans. Celui qui s'attache pendant ce temps à ce sur quoi vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire la vraie religion, telle que l'a enseigné le prophète, celui-là donc aura la récompense de 50 personnes parmi vous. Le compagnon demandèrent parmi nous ou parmi eux. Il répondit parmi vous. Or, les meilleures des créatures de Dieu après le prophète sont les compagnons, sont leurs compagnons. Le meilleur des prophètes de Dieu est notre prophète. Le maire des prophètes de Dieu est notre prophète. Donc ses compagnons sont aussi les maires de compagnons. Que dire alors du salaire de la récompense? Que dire alors du salaire de la récompense d'un seul d'entre eux, à plus forte raison, la récompense de 50 d'entre eux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, l'islam a commencé étranger, il finira étranger. Bonheur alors aux étrangers. C'est-à-dire, au début, les gens ignoraient l'islam de leur vie, si bien que ça venait étrangère à eux. De même, à la fin, à notre temps, par exemple, l'islam est tellement ignoré que celui qui cherche à le pratiquer comme il est venu devient d'un coup étranger à sa société. Bonheur aux étrangers, bien qu'ils soient chez eux, car toute leur vie est ignorée des gens, puisque ceux-ci ignorent tout de l'islam. Sache que les femmes ont joué un rôle très important de la propagation de l'islam dès sa naissance, et qu'à l'instar d'elle, tu dois t'armer de courage et d'abnégation pour connaître et faire connaître la religion. Où est-ce, par exemple, par rapport à Khadija, première femme du prophète, première personne à croire à la mission du prophète, première femme et première personne à mettre sa vie et ses biens aussi au service de l'islam. Ou ici de Soumaïa, première martyre de l'islam, première femme à donner sa vie pour faire triompher l'islam, première personne qui a préféré mourir plutôt que de reconnaître les fausses divinités de Mecca. Où es-tu de Aïcha, femme du prophète dès l'âge de 9 ans, celle-là qui dirigeait les femmes en prière en se tenant à leur milieu, et cela à cause de sa connaissance du Coran et de son interprétation. Elle était la première juriste qui consultait le grand savant de son temps pour le partage de ses sœurs. Où es-tu de Fatima bint al-Khattab, sœur de Omar bin al-Khattab, qui apprenait la surat Taha, 20e chapitre du Coran, avec son mari lorsque Omar, avant sa conversion, pénétrait sur eux pour les menacer afin de renoncer à leur religion, à la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et devant la fermeté et la décision du couple à mourir plutôt que de renoncer à leur religion, Omar demandait à sa sœur les feuillets du Coran pour le lire. Elle lui répondit que c'était interdit pour le non-purifié. Omar a appris sur les champs la façon de faire l'ablution, et lorsqu'il a lu les premiers versets de Taha, « Taha ma anzana alayka al-Qur'an al-Tashqa » Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois un malheureux. De là, la lumière divine traversa sa conscience et sortit à la recherche du prophète pour se convertir à l'islam. Où es-tu ? De Khawla bint Qif, cet exemple vivant et parfait de la piété, celle-là qui n'a jamais été absente des séances de prêche et des prières de vendredi à la mosquée du prophète. Elle dit, j'ai écouté le prophète prononcer le serment du vendredi alors que j'étais au dernier rang des femmes et je suivais sa lecture de la sourate Qaf, 50e chapitre du Coran, alors que j'étais au fin fond de la mosquée. Il faut signaler que pour les femmes, le dernier rang et le dernier rang est le meilleur à la mosquée, tandis que pour les hommes, le pire de rang est le dernier, qui est donc proche des femmes. Encore, la prière de la femme dans sa maison est meilleure que sa prière à la mosquée, mais on ne l'empêche pas d'aller à la mosquée si elle exprime le désir d'y aller, soit pour prier, soit pour écouter la séance de prêche, soit pour s'instruire. Mais son domicile est toujours meilleur et propice. Où es-tu de Ummu Waraka bint Abdallah, celle-là qui recevait en personne la visite du prophète qui l'avait surnommé la Mercier et l'avait chargé de diriger la prière des femmes de son domicile car elle connaissait le Coran par cœur. Où es-tu de Ummu Salim, celle-là qui s'intéressait de très près à sa religion, celle-là qui voulait tout connaître sur sa religion, celle-là qui voulait être à la lumière de tout ce qui la concerne. Elle alla jusqu'à poser au prophète une question qu'on peut qualifier de non-critique, mais qui en réalité méritait bien une réponse. Elle dit au prophète de Dieu, certes Dieu n'éprouve aucune honte à dire la vérité, dis-moi, la femme qui a eu un rêve, doit-elle se laver? Le prophète lui répondit, oui, s'il lui a sorti de liquide. Où es-tu de Rukia? Fille du prophète qui conduisit les femmes des compagnons en émigration de Médine en Éthiopie pour appeler les hommes à la voie de Dieu. Où es-tu de Ummu Amir, celle-là qui conduisit un groupe de femmes auprès du prophète pour lui prêter serment de défendre la religion par tous les moyens, à commencer par leur propre vie. Où es-tu de Ummu Atiya, celle-là qui avait pris part à cette bataille en compagnie du prophète et de compagnons. Elle dit, j'avais participé à cette bataille avec les hommes, je leur préparais la nourriture, soignais les blessés et surveillais les malades. Ainsi elle fit la première ce que font aujourd'hui la Croix Rouge internationale. Il faut le dire à pour tâche essentielle. La Croix Rouge internationale qui, il faut le dire à pour tâche essentielle la christianisation des gens, car elle est partie intégrante des missions chrétiennes. Où es-tu de Ummu Salim? Celle-là qui faisait preuve de son amour de l'islam et de son amour de combattre aux côtés du prophète et des croyants, qui n'hésitait pas à prendre part à la bataille de Hunayn, un grand poignard à la main alors qu'elle était enceinte de Abdullah bin Abi Talha. Lorsque son mari l'aperçut, l'informa le prophète, lequel demanda au musulman la raison pour laquelle il portait le grand poignard. Je l'avais pris, dit-elle, de l'intention de fendre les ventres de tous mes craintes qui se seraient rapprochés de moi.
Allahu Akbar.
Le prophète lui dit, Dieu a été bon envers nous, il nous a épargné le combat. Hans, que Dieu soit satisfait de lui, raconte qu'au cours de la bataille de Uhud, où les musulmans furent défaits par désobéissance à une consigne du prophète, la nouvelle s'était répandue dans la ville de Médine que le prophète était tué. Le Christ se fit entendre partout, au point qu'une femme sortit de sa maison et se rendit sur le champ de bataille pour confirmation de la nouvelle. Elle apprit en cours de route que son père, son mari et son frère ont tous été martyrisés, c'est-à-dire tués. Elle continua son chemin quand même jusqu'à la bataille et demanda ce qu'était devenu le prophète. On lui répondit qu'il était vivant et qu'il se trouvait un peu en avant d'elle. Elle s'avança jusqu'au prophète, puis il prit le bout du boubou du prophète en criant « Ferme un porte de ceux qui ont péri, si toi tu es vivant, ô prophète de Dieu. » Il faut signaler que pour la femme, les jihad, c'est-à-dire prendre l'arme contre les mécrans, n'est pas une obligation. Leur combat consiste en effet à aller au pèlerinage, comme il est dit dans un récit authentique. Cependant, ces femmes qui ne sont que des exemples parmi tant d'autres, étaient dominées par la flamme de la foi en Dieu, par la chaleur de l'amour pour Dieu et sa religion, au point qu'elles n'éprouvaient aucune gêne à sacrifier leur vie, connaissant parfaitement la récompense qui leur est réservée auprès de leur Seigneur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères de religion qui nous ont dévancés de la foi. Ne suscite, Seigneur, à nous nul ressentiment contre ceux qui ont crié avant nous. Tu es toute bonté, toute compassion. Amen. Où es-tu donc, ma chère sœur en Dieu, par rapport à tes femmes, par rapport à leur vertu, par rapport à leur amour pour Dieu, pour son prophète et pour l'islam? Où es-tu par rapport à leurs actions? Où es-tu, ma sœur, par rapport à ces femmes qui ont porté courageusement l'arme sous toutes ses formes et sous toutes les sens, sous toutes ses formes et sens pour combattre le faux et faire triompher la vérité? Où es-tu? Où es-tu par rapport à la laïcité? Par rapport à la laïcité, qu'imposent les forces alliées de Satan au peuple musulman? Où est-il de la laïcité qui a empêché ou qui va empêcher ton enfant d'entendre la parole sur les bancs de l'école? Où est-il de la laïcité qui te fera déloger de ta demeure que Dieu t'a conférée pour te jeter de la gueule du mal et la corruption, de la débauche, de la perversion, de la déloquence et de la dégradation morale sous toutes ses formes et sens? Où est-il de la laïcité qui va te faire porter la tenue de la combattante de la voix de Satan contre tous ceux qui ont cru? Où est-il de la laïcité qui va te dépouiller de ta tenue de musulman pour te donner celle de la publicité et des mannequins? Où est-il de la laïcité qui va te déroger de ton rôle d'éducatrice des futurs hommes du pays, car la laïcité le placera désormais dans l'enseignement laïque aux mains des ennemis de Dieu et de l'islam et des musulmans? Où est-il de la laïcité et de laïque qui ne reconnaissent pas pour le peuple musulman dans leur constitution une religion déterminée, une religion majoritaire que l'islam? Où est-il de la laïcité qui va effacer tes droits comme connus de la loi de Dieu pour t'en fabriquer d'autres qui feront de toi une marionnette de leurs mains en te dépouillant de ta dignité de musulman, en faisant de toi une balayeuse de rue ou une poseuse de brouettes comme ça se passe dans certains pays, ou une manœuvre de la mairie, ou un objet de publicité devant les yeux pervertis des pervers de les bureaux, de les classes, dans les hôpitaux, dans les bars, les salles de cinéma, les marchés, et jusque chez toi, dans ta propre maison? Où es-tu de la laïcité Quelle lutte as-tu menée pour la supprimer? Pourquoi tu t'étais devant la vérité? Crains-tu les hommes plus que Dieu? Ou préfères-tu les hommes et leurs lois à Dieu et à sa loi? Préfères-tu ta vie à la défense de la religion de Dieu? As-tu oublié que la mort est inévitable? Que tu mourras d'une façon ou d'une autre quand Dieu le voudra? Ou ignore-t-il la récompense réservée à ceux qui combattent pour Dieu? Rappelle-toi les jours où tu te tiendras toute nuit devant ton Seigneur. Quelle est donc ta position aujourd'hui devant Dieu? Et quel sera ton sort demain? As-tu oublié ton engagement devant Dieu à l'adorer sans lui associer quoi que ce soit? N'as-tu pas cru en Dieu, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour dernier, au décret? N'es-tu pas convaincu de ta mort prochaine? De ton entrée dans ta tombe toute seule? De l'interrogation qu'on te fera dedans? De ton sort selon tes œuvres, le bon guidant vers le paradis tandis que le mauvais attire vers le feu? N'es-tu pas convaincu de ton passage sur le pont tranchant et effilé au-dessus du feu, du paradis et de ses délices, du feu et de ses châtiments, de la méchanceté de ton âme charnelle à ton égard, du stratagème égarant de Satan, de la stricte observation de Dieu? N'as-tu pas honte de notre Seigneur le jour où on déposa devant nous toutes nos œuvres? Avons-nous donc oublié le jour terrifiant où les hommes seront éparpillés comme des papillons, jour où bien et enfants ne seront d'aucune utilité hormis celui qui relâche son Seigneur avec un cœur saint, jour dont la terreur enivrera les hommes, jour où les têtes des enfants blanchiront de crainte, jour où les femmes enceintes avorteront de crainte, jour où les mères abandonneront leurs nourrissons, jour où l'homme mécréant voudra donner ses fils, sa compagne, sa famille et tous ceux qui sont sur terre pour se racheter du châtiment, jour où l'homme fuira son frère, sa mère ainsi que son père, sa compagne et ses enfants, jour où on soufflera dans le clairon de l'apocalypse, jour où la terre sera soulevée et les montagnes réduites d'un seul coup, jour où le ciel sera fendu, jour où nous serons exposés devant le Seigneur à nu, jour où on donnera aux vertus le livre de ses actions par la main droite et aux mécréants par derrière son dos, jour où le mécréant souhaitera être néant et jamais recevoir son livre ni connaître des jugements, jour où il criera d'inutilité de ses biens, la perte de son pouvoir, jour où on dira saisissez-les, enchaînez-les, puis jetez-les dans la fournaise ardente, puis ligotez-les avec une chaîne longue de 110 coudées, car ne croyez pas à Dieu. Le trésor inincité à nourrir les misérables, ainsi il n'a aujourd'hui aucun ami pour le protéger, ni d'y manger sinon du sang et du puits dont seul les fautifs en mangent. As-tu oublié donc ce jour, ce grand jour, où Dieu ordonnera les anges de conduire le fils d'Adam au feu, et les anges demanderont combien et comment au Seigneur, et il répondra, prenez 999 personnes dans chaque groupe de 1000. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous sommes à Dieu et à lui nous retournerons.
اللهم اجعلنا من النار واجعلنا في جميع الامور اللهم اجعل الله واجعل الامور عند فراق الدنيا حتى منازلنا واشفع فيها قلوبنا كلنا وارحم يوم البعث عليك كل مكان الله اللهم ارحمنا بما ذكرنا اهلنا اللهم ارحمنا بما
اللهم لا تنسنا على هذا وَقَالَ إِنَّ إِلَّا أَنْتَ الْجَوَابُ الْكَرِيمُ وَقَالَ لَا تُسْقِطْ قُلُوبَنَا